Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas un jour où on a envie de rigoler. Ce matin, funérailles nationales d'un homme, Arnaud Beltrame, comme on aimerait en voir plus souvent pour reprendre l'expression des nuls. Et en fin d'après-midi, marche blanche à Paris en mémoire de Mireille Knoll, cette petite mamie octogénaire de confession juive, lardée de coups de couteau avant d'être flambée à domicile. Non, c'est pas un jour où on a envie de rigoler. C'est même une de ces journées où nos petites histoires nous semblent bien dérisoires. Et en même temps, comme dit je ne sais plus quel président, c'est précisément parce qu'elles le sont souvent qu'elles en deviennent d'autant plus indispensables. Continuons donc à popoper, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, et tous les autres aussi, d'autant plus qu'aujourd'hui nous recevons deux personnages à forte personnalité et à grand talent. Le premier, assis de l'autre côté de la table, me fixe de ce regard lumineux et intense qui ferait fondre une borne kilométrique. C'est sans aucun doute l'un des plus pop de nos acteurs. Et pendant ce temps-là, ma seconde invitée, pure icône de la pop culture, s'échauffe en régie avant de venir nous rejoindre sur ce pop ring. Aujourd'hui, Nicolas Duvauchel et Michel Lamy sont dans Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Nicolas Duvauchel.
Bonjour.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop. À mes côtés, vous la connaissez déjà, Charline Roux. Charline Roux, vous avez toujours la voix de Joey Star aujourd'hui?
Toujours.
Vous pouvez me dire à base de pop-pop-pop ?
Jamais de la vie.
Voilà, pour le menu, je laisse à Benjamin Biolay, avec qui vous avez tourné, Nicolas, le soin de lancer cette émission.
Salut, c'est Benjamin Biolay. Pop-pop-pop-pop-pop, c'est parti.
Eh oui, c'est parti. Nicolas Duvauchel.
J'ai un peu sa voix. Vous avez remarqué ? J'ai un peu la voix de Benjamin Biolay aussi en même temps.
Ah, non, moi je reste un peu sur Joey Star quand même. Nicolas Duvauchel, on commence toujours ici par une question encore plus effrayante qu'une victoire de l'OM dans un classico. Et cette question, c'est... Nicolas Duvauchel, pour vous c'est quoi la pop culture ?
Bonne question. Alors, je dirais la culture populaire, donc c'est pas forcément ce qui m'excite vraiment, quoi. Mais je sais pas, moi quand on me dit ça, je pense à MTV, au clip d'MTV quand j'étais plus jeune. Mmh. Voilà, super bizarre, mais voilà, ça me fait penser à ça.
Bon, ça me va très bien. Voilà. Ça vous va, Charline ?
Très bien.
Refaites-moi la voix de Benjamin Biolay.
Bonjour, c'est Benjamin Biolay.
Bien, petit pop break dans ce pop 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 pour démarrer, pour écouter un morceau signé Sharon Jones avec Matter of Time.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, peace of mind in a matter of time. Yeah. I can't wait too much longer. Will this world ever get better?
Sharon Jones, Matter of Time, c'est extrait de l'album Soul of a Woman. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un des acteurs les plus pop du cinéma français, disais-je précédemment. Pourquoi ai-je dit ça? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Nicolas, c'est votre portrait, mais comme dirait Charline Roux, c'est un portrait...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est donc signé Charline Roux.
Les cinéphiles reconnaîtront ici la musique de Fenêtre sur cour d'Hitchcock. C'était pour mettre un peu de malaise dans ce portrait, parce qu'un étrange hasard fait que j'habite dans l'immeuble qui fait face à celui de notre invité. Mais question malaise, ma voix fait déjà bien le job. Et question dossier, j'ai rien à balancer si ce n'est une certaine agitation les soirs de match du PSG. Donc tu peux couper la musique, Ghislain, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous recevons un acteur que j'aime autant en Flic, dans Braco, dans Police, qu'en Voyou, dans Secret Défense où tout nous sépare. Impeccable en Polyamoureux dans Happy Few ou Les Corps Impassants. Impeccable aussi en Proie dans Trouble Every Day, dans lequel il se fait littéralement croqué par Béatrice Dalle. En grand monde poétique, je l'aime bien, et je l'aime bien aussi en poète qui souhaite à une jeune femme une prompte pousse d'ananas dans l'océan, dans Comme des frères. Il est impeccable en anti-héros un peu paumé dans Je ne suis pas un salaud. Il est aussi impeccable en homme qui refuse d'être un héros dans Le collier rouge de Jean Becker, le film dont Nicolas Duvauchel, mon voisin sympa, vient nous parler aujourd'hui.
Ouh, un petit avis sur ce portrait sponsorisé par la fête des voisins?
Je suis très heureux, et puis je suis très heureux d'avoir une telle voisine, quoi, vraiment.
C'est vrai.
Merci pour ce beau portrait.
Ah,
oui.
Amène à barbecue.
Vous pouvez m'en parler un peu, parce que je sais qu'elle vous observe, mais vous l'observez aussi.
Oui, mais on se connaît par le biais de son mec. Voilà. Et puis.
Donc ça va être tout. Vous portrez à moi.
C'est un plan à trois, en fait. Ok, Nicolas Duvauchel, passons donc à la deuxième formalité de cette émission, mieux vous cerner en fonction de vos goûts en matière de pop culture, c'est l'heure de votre pop liste. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série et un jeu vidéo. Et pour le livre, vous avez choisi La route de Los Angeles de John Fante, rédigé en 1933 et publié en 1985. Arturo Bandini vit avec sa mère et sa sœur. Vivant de petits boulots qui ne l'intéressent pas, rêvant de femmes sur papier glacé, il va tenter de trouver sa voie, devenir écrivain. Alors Guillaume Gallienne, qui lit généralement les livres chez nous, est retourné en thalasso pour un enveloppement aux algues, m'a confié ce matin Laurence Bloch à la machine à café. Écoutons donc à la place le youtubeur Félix Libris, qui se définit lui-même comme une star internationale de la lecture. Écoutons-le en lire un extrait.
Chaque après-midi, Miss Hopkins était à la bibliothèque. Elle flottait sur ses jambes blanches parmi les plis de ses robes amples dans une atmosphère de livres et de fraîches pensées. J'observais, comme un faucon. Aucun de ses gestes ne m'échappait. Alors, un grand jour est arrivé. Quel jour ça a été ?
Voilà, une lecture intense.
Il a dit bibliothèque.
Pourquoi La route de Los Angeles de John Fante, Nicolas Duvauchel?
Mais j'adore tout ce que... J'adore John Fante, puis j'adore aussi son fils Dan Fante aussi. Je suis un très grand fan parce que c'est des... lui, je crois qu'il a eu beaucoup de... En fait, c'est un écrivain, on va dire, un peu raté parce qu'il écrivait des bouquins qui ne marchaient pas, mais il a écrit beaucoup de scénarios pour Hollywood qui marchaient beaucoup, et je crois que ça l'a beaucoup frustré dans sa vie qu'il n'y ait aucun bouquin à lui qui marche. Et je sais pas, voilà, parce qu'il ne ment pas dans ses bouquins. Même il a fait Mon chien stupide, d'autres bouquins comme ça qui sont vraiment bien. Et je sais pas, il ment pas, il raconte sa vie sans ornement. Voilà, il peut être lâche dans le bouquin, il peut être souvent lâche, quoi. Et j'aime bien, voilà, un peu sans artifice.
Et puis c'est une écriture très simple, d'une fausse simplicité, mais en apparence.
Oui, c'est pas oui non plus. Hein.
Non, c'est pas oui, mais très épuré, je veux dire.
Ouais, oui, voilà. Non, mais c'est. Et puis moi, j'aime beaucoup cette littérature américaine. Oui.
Mais vous seriez pas mal en Bandini, hein?
Ah oui, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien.
Il y a très eu d'adaptation de ça.
Il y a eu, me semble-t-il, Demande à la poussière avec Colin Farrell. Ouais, l'adaptation était très ratée.
Ouais. D'accord.
Je crois. Un très beau bouquin aussi, Demande à la poussière.
Ouais. On passe à la série. La série, vous avez choisi Série Noire d'Alain Corneau, sorti en 70.
Le film.
Ouais. Un film sorti en 79 avec Patrick Devers, votre idole. Franck Poupart, excentrique et imprévisible représentant de commerce, rêve d'une vie plus aventureuse. Quand sa femme Jeanne le quitte et qu'il perd son emploi après une nuit en cellule, il saute le pas. Avec le soutien des beaux yeux de Mona, une prostituée de 16 ans, il va commettre un crime. Il tue sa tante, lui vole ses économies et abat sur les lieux du crime un pauvre immigré au chômage. Écoutons un extrait calme avec Patrick Devers.
T'en verras pas un rond du fric de la vieille, pas un rond, t'entends ? Pas un rond ! D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi ! Tu planes, toi ! Mais pourquoi tu t'en fous du fric ? T'es bien qu'une petite pute ! C'est à cause du fric que t'es venu me chercher ! Non ! C'est ça que tu voulais, non ? C'est ça qui t'excite, non ? Mais dis-le ! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite, hein ! C'est quand même pas moi ! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi ? Connard ! Pauvre connard ! Pauvre connard !
Patrick Devers qui s'éclate littéralement la tête contre son capot de voiture. Pourquoi cette série noire, Nicolas Divauchel ?
C'est un des premiers films déjà tourné en banlieue, si je dis pas de bêtises, et incroyable dedans, quoi, de la modernité de son jeu, je sais pas comment dire, quoi. Il pourrait jouer encore maintenant, ce serait vraiment un acteur super moderne, mais c'est, pour moi, c'est lui le premier à avoir joué, on va dire, d'avoir un jeu moderne, et il va jusqu'au bout, même dans cette scène, là, il fait une impro, il met des coups de tête dans la vitre ou dans le capot, même, enfin, c'est incroyable. Et puis juste dedans, lui, il est juste magnifique à regarder. Moi, il m'emporte. Même cette scène, elle m'émeut juste à l'entendre, juste de l'entendre comme ça. Il parle à Marie Trintignant dedans et elle est super émouvante, cette scène. Même Marianne Trintignant, elle est incroyable dedans. Il y a Myriam Boyer aussi. Il y a Bernard Blier. Et celui qui fait Tiki Des, je sais plus comment il s'appelle, mais.
Tiki Delgado?
Non, c'est pas lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais elle est juste incroyable. Ce film est incroyable.
Il fait partie des acteurs qui vous ont donné envie d'y aller à votre tour?
Non, moi, je suis arrivé par hasard dans le cinéma, mais oui, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et ses films, après Xavier Giannoli m'a fait découvrir beaucoup des films dans lesquels il était, et c'est vrai que ça m'a impressionné, et puis c'est quelque chose que je garde, et ce film particulièrement, quoi, c'est vraiment, ça fait 15 ans que je dis que c'est mon film préféré, c'est toujours mon film préféré.
Bien, passons à la série. Alors là, il s'agit d'une série qui parle de criminalité dans la ville de Baltimore.
If you walk through the garden,
et évidemment, tout le monde reconnaît le générique de The Wire, une série créée par David Simon, diffusée sur HBO entre 2002 et 2008. Pourquoi cette série, Nicolas, que d'après votre voisine qui vous mate tous les soirs, regardez, si je l'en crois, est allée dans votre canapé, parfois prétend-elle en vous caressant. Pourquoi cette série ?
Mince.
J'ai jamais dit ça. Jamais.
Je sais pas, de voir un peu les rouages de la police, un peu tout le côté administratif, tout le côté un peu de l'arrière, ce qui se trame, on va dire la course au pouvoir des flics, le commissaire qui veut devenir commissaire divisionnaire et ainsi de suite, ça m'a beaucoup plu, quoi. Et McNulty dedans, je le trouve super touchant. Je sais pas c'est quoi le nom de ce mec d'ailleurs, mais celui qui fait McNulty, je sais plus.
Charline Roux.
Ah, Charline, elle est sur son ordi.
Elle est partie, elle tape à 3000 à l'heure.
J'aime beaucoup cet acteur. D'ailleurs, j'ai pas revu dans beaucoup de films, malheureusement, lui. J'ai pas compris, mais.
Dominic West. Non, voilà. Pas du tout.
Non, pas du tout, non. Si, non.
Quelle réactivité.
Si, c'est ça, c'est Dominic West.
C'est ça, ouais. Un brin. Mais il est super, lui. Et puis, je l'ai pas revu dans d'autres films. Il y a eu Idriss Elba, lui, là. Il a percé, il y en a eu quelques-uns, mais lui.
Ça, j'aurais su, Idriss Elba.
Ouais.
Bon, j'ai un livre, j'ai un film, j'ai une série, il me manque un jeu vidéo. Là, vous choisissez FIFA. Écoutez ce petit cadeau. EA Sports, it's in the game. Mais bien sûr, on a reconnu Blur, Song 2 dans le générique mythique de FIFA 98. Combien vous avez passé d'heures, de jours, de semaines à jouer à FIFA?
Oh, je dois être à quelques années, ouais. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup jouer, c'est vrai. Et au jeu de foot, oui, surtout avec des potes. Mais maintenant, je crois que le FIFA, ils ont enlevé les modes de coop. Moi, j'aime bien de jouer dans le canapé avec plusieurs potes, en fait. Mm-hmm. Plus que jouer par Internet, je trouve ça plus marrant. Et ils font de moins en moins de jeux comme ça, malheureusement. Même FIFA, ils ont enlevé le mode multijoueur, on va dire, où on pouvait jouer sur Internet contre d'autres joueurs. Ils ont enlevé ça, c'est dommage.
Jouer à 11 dans le canapé ?
Non, peut-être pas, mais à 3-4, ouais. 3-4, c'était marrant. Mais non, 11, faut de la place. Hein.
Bien, finissons cette pop-list avec la chanson. Et pour vous, la chanson, c'est ça. Marvin Gaye, Since I Had You, un morceau de 1976, extrait de l'album I Want You. Pourquoi ce Marvin Gaye-là en particulier ?
Oh, j'aime tous les Marvin Gaye, vous savez, mais j'aime bien le début de sa carrière solo, enfin, quand il a arrêté d'être avec Tammy Terrell, tout ça, mais... je sais pas, c'est super sexe, là, j'ai envie de me caresser un petit peu, pardon. Non, mais je sais pas, j'aime beaucoup, et puis c'est comme un gars comme Curtis Mayfield aussi, que j'aime beaucoup, mais Curtis Mayfield était moins beau, lui, il avait une voix incroyable, ouais. Il jouait de tous les instruments, et puis il était beau, quoi. Ouais. Il était beau, il avait quelques petits soucis avec la drogue, malheureusement, mais c'est... C'était magnifique.
Je vous recommande le concert du festival de Montreux.
Montreux, magnifique, extraordinaire.
Okay.
Magnifique.
D'accord. Bien, alors je résume La Route de Los Angeles, Série Noire, The Wire, FIFA et Marvin Gaye. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Mais pourquoi tu t'en fous du fric ?
Miss Hopkins était à la bibliothèque.
Tu deviens qu'une petite pute !
If you walk through the garden,
j'observais comme un faucon.
You better watch your back.
Connard!
Will I beg your pardon?
Alors, un grand jour est arrivé.
Pauvre connard!
Quel jour ça a été?
Pauvre connard!
Voilà, c'est un bon bordel, non ?
Certains sens de l'accueil.
Vous le voulez pour votre répondeur?
Ah ouais, j'adorerais, franchement, d'accord. C'est magnifique.
Justin Fontanaille, d'accord, c'est le réalisateur.
Oui, d'accord, pas de problème.
Merci Ghislain. Bien, Nicolas Duvauchel, nouveau pop break pour écouter Gregory Porter, Don't Lose Your Stream.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, 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 hey. Is new, whatever you do is up to you, but do me this, do don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Young.
Don't Lose Your Steam, un morceau extrait de l'album de Gregory Porter, Take Me to the Alley, dans Pop 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 sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel, vous êtes à l'affiche du Collier Rouge, d'après un roman de Jean-Christophe Ruffin, réalisé par Jean Becker. Alors le Collier Rouge, c'est celui d'un chien hein, tout abîmé, qui aboie jour et nuit devant la caserne dans laquelle son maître, combattant de la Première Guerre, est retenu prisonnier. Un juge vient pour démêler l'affaire, qui vaut aux militaires d'être emprisonné. Vous êtes Morlac, l'homme en cellule, François Cluzet, le magistrat, et Mick Jagger, c'est le beauceron qui aboie à l'extérieur. Ambiance.
Je suis le chef d'escadron Lantier du Grèce, chargé de juger votre affaire. Je comprends pas qu'un type qui a reçu la Légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qui vous a reproché aujourd'hui. J'imagine que vous étiez ivre.
J'étais pas saoul, je regrette rien. Et personne m'obligera à m'excuser.
Vous le connaissiez, vous, ce Morlac, avant son coup d'éclat ? Un drôle de type.
Quand je l'ai vu passer le 14 juillet avec son chien, j'étais loin de me douter de la suite.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse sur le chien, c'est quand même bizarre d'appeler un chien Jagger, non ? Ils auraient pu l'appeler Joe Cocker.
C'est excellent. Revenons donc à ce que ce Morlac a bien pu faire pour mériter une halte pénitentiaire après avoir été un vaillant à la guerre. C'est l'objet de cette enquête menée par le personnage de François Cluzet, une intrigue entre interrogatoire en prison et flashback dans les tranchées. Vous diriez film de guerre ou polar ?
Ah, bonne question, ouais. Un polar, je pense. Parce qu'il y a vraiment une enquête de François, voilà, qui essaye d'élucider un peu les raisons de le fait que je sois arrêté, enfin, aux arrêts. Et au début, il vient vraiment comme un juge, et puis, bon, il va démêler l'histoire, il va faire chacun un bout de chemin l'un vers l'autre, et on va s'aimer à avoir plein de...
C'est pas celui-là.
Donc, c'est vraiment l'histoire de... Lui est plutôt un militaire de carrière, donc un peu dans la bourgeoisie, on va dire, de militaire de carrière. Moi, je suis vraiment un mec, un paysan. Donc, c'est deux mecs de deux mondes différents, en plus. Et qui se rencontrent pour des... Merde, qu'est-ce que je raconte, je sais plus, c'était quoi la question?
Oula, j'ai parce que le premier était coupé,
ou... voilà, c'est ça, polar. Puis... mais ça, polar, voilà.
C'est un rôle à grand écart, parce qu'il y a des scènes de pure action, de bataille dans la boue, et puis ce face-à-face dans une cellule de 9 mètres carrés, la confrontation entre le magistrat et l'accusé. Quelle est celle des deux parties du film qui a été la plus agréable ou la plus difficile à jouer?
Les face à face avec François, voilà, moi j'ai adoré jouer avec lui, quoi. C'est vraiment tout le monde le sait, mais c'est un sublime acteur, moi, que j'adore, qui donne beaucoup. Et de me retrouver à lui en face à face dans cette espèce de huis clos, ça j'ai vraiment adoré. Même si on était au fort de Cormeil, au moins deux, c'était super claustro, mais j'ai adoré tourner avec lui, j'ai adoré l'intensité qu'il a, puis cette colère rentrée toujours, on se ressemble pas mal là-dessus, hein. C'est lui qui m'avait dit ça, mais c'est vrai moi je suis lui 30 ans avant. j'adore ce mec, il est super touchant en plus. J'ai adoré tourner avec lui. Et oui, toutes ces scènes de bataille, on va dire qu'on a tourné vers Angoulême, avec que des gens du coin, donc pas de figurants professionnels et tout. Il y a eu quelques accidents, il y a eu des dents cassées, des lèvres ouvertes. Il y a même un qui s'est pris un coup de baïonnette dans l'océan, comme vous dites. un petit 4 cm, on tournait avec des vraies armes et tout, donc c'était assez physique. Mais le résultat est vraiment pas mal, quoi. Ouais.
Le film est dirigé par Jean Becker, dont vous parlez comme, je cite, d'un metteur en scène à l'ancienne. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a plu. Ça veut dire quoi pour vous, metteur en scène à l'ancienne ? Ça renvoie à quoi ?
Non, mais voilà, quand il a quelque chose à nous dire, ou voilà, il prend pas de pincettes, il vient pas nous voir entre quatre yeux, et l'équipe attendait, j'ai quelque chose à dire à Nicolas. Non, il est derrière son combo, et puis il dit les choses comme ça sort, quoi, voilà. Mais non, c'est pas ça que tu demandes, mais qu'il est con, putain, mais non, Nico! Donc voilà, il n'y a pas de non-dit, et oui, forcément, au début, ça surprend un petit peu, mais c'est vrai que oui, moi j'aime bien ça, et puis, en fait, il est super paternaliste aussi, ça que j'aime bien, c'était un peu comme un grand-père pour moi sur le tournage. Et oui, j'aime beaucoup, mais il est très drôle hein, aussi. Il gueule beaucoup, il s'emporte beaucoup, mais il est très marrant, il est très touchant aussi, quoi.
Il paraît qu'au départ, Jean Becker avait pensé à faire jouer votre rôle par un acteur noir. Vous êtes au courant ?
Pas du tout.
Oui, on m'a dit, il voulait un film Black et Becker.
Ce Morlac que vous incarnez, il est à la fois héroïque mais révolté. C'est un trait de caractère que les réalisateurs aiment bien projeter sur vous. À quoi ça tient, selon vous ? Et merci de répondre calmement.
Je ne sais pas, dis donc, je tombe des nues à chaque fois qu'on me propose ce genre de rôle, moi qui suis si calme et si posé. Donc je ne sais pas, non, oui, c'est peut-être une histoire de tempérament, oui. Oui, je ne sais pas. Je suis pas le plus calme des mecs, donc c'est sûrement ça. Et puis, puis oui, je suis un grand révolté. Donc forcément, ça se voit et puis ça transpire.
Mmh. Vous avez vécu un peu en Picardie, hein, comme Charline, qui décidément vous marque à la culotte, comme on dit. Région fort sympathique, au demeurant, mais aussi fortement marquée par la Première Guerre mondiale. Et,
tout à fait.
Et vous avez retrouvé dans l'histoire de Morlaix un peu de celle de votre arrière-grand-père.
Oui, oui, oui. Bah, il y a trois mois, bon, ça va être un peu long, mais voilà, je me lance. Mon père est allé voir le frère de ma grand-mère, donc mon grand-oncle, et il a retrouvé une médaille qu'avait reçue donc mon arrière-grand-père, donc le grand-père de mon père. Voilà, vous suivez toujours.
Ouais.
Donc qui avait été chasseur donc dans la cavalerie et ça avait été un sujet tabou pour lui aussi. Il voulait pas en parler. Il avait foutu la médaille dans un coin dans la cave ou je sais plus quoi dans le grenier. Et il on l'avait jamais ressorti. Et mon père est tombé dessus il y a trois mois. Donc lui aussi avait un peu craché sur les honneurs. Voilà, parce que c'était vraiment une guerre inutile et puis c'était un peu trop facile pour lui trouver d'être allé à la guerre et puis c'est bien, vous êtes allé à la guerre, une médaille, elle rentrez chez vous, voilà, vous êtes mignon. Donc oui, c'était un peu tabou et il en parlait pas, voilà, non, même mon arrière-grand-mère n'en parlait pas du tout. Moi j'ai connu mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père j'ai connu très très peu, mais il en parlait pas et mon père m'a dit qu'il n'en parlait pas à la maison et voilà, c'était vraiment un sujet tabou. Et c'est vrai que comme ils habitaient la Somme, ça a vraiment été le théâtre des combats, oui. Donc,
Je sais que cette question a nécessairement une résonance un peu particulière aujourd'hui, mais selon vous, ça veut dire quoi être un héros aujourd'hui ?
Être un héros, je sais pas, mais d'être un héros, ça peut être faire un acte de bravoure comme ce gendarme, ça peut être un héros du quotidien aussi, voilà, je sais pas, ça peut être plein de choses, d'être un héros, voilà, c'est empêcher ses enfants de regarder de la télé-réalité, des choses comme ça, quoi. Moi, c'est pour ça, moi. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça peut être des trucs du quotidien tout con, mais oui, après, héros, voilà, comme ce pauvre gendarme, oui, ça c'est un héros, mais bon.
Un rapport très particulier, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, va se nouer entre votre personnage et celui de François Cluzet. Comment s'est passée cette collaboration au-delà de l'admiration mutuelle que vous portez ?
Eh ben, ça a commencé par un déjeuner avec Jean Becker et Louis Becker, où on est ressorti un petit peu complètement
d'équerre.
Ah, j'ai cru que
t'allais. Pas mal.
Voilà, bah attends. Et donc,
pas comme ça.
Donc, ouais, on avait bu 4-5 bouteilles de rouge.
Ouais,
et puis, et après, moi, je suis parti chez François. Nous avons continué un petit peu et on a discuté. Donc, ça s'est très bien passé comme première approche. Voilà. Ça aide toujours à une bonne bouffe, une bonne table. Hein, et non, après, c'est vrai qu'on s'est revus pour des lectures. Et ça s'est très bien passé. Mais j'adore François, quoi. Vraiment, c'est un super mec et je l'adore.
Alors François Cluzet n'est pas votre seul partenaire hein, dans le film.
Non,
il y a évidemment Sophie Verbeek, voilà, qui joue votre dulciné.
Qui est super aussi. Ouais.
Et puis deux autres acteurs, disons plus velus, des chiens, dont on a cru comprendre qu'ils étaient vraiment des comédiens pas très généreux, assez égocentrés. C'est un trait de caractère spécifiquement canin ou on retrouve ça aussi chez des acteurs bipèdes ?
Non, on peut retrouver ça chez certains acteurs bipèdes, complètement. Voilà, dont je tairai le nom, mais oui, ça m'est arrivé de tomber sur des gens comme ça qui n'ont rien à foutre des autres, hein, tout simplement, on peut le dire. Mais oui, qui sont pas très généreux dans les off quand ils sont pas à l'image ou des choses comme ça, ça c'est un peu énervant et puis j'essaye d'éviter les gens comme ça au maximum. Mais c'est vrai qu'avec le chien, c'était pas facile tous les jours, manque de concentration, il regardait à droite, après des mises en place d'une heure, on tourne un plan de 2 minutes, et hop, le chien s'en va. Bon.
Quel enfer.
On va la refaire, ouais, sous 40 degrés, c'est vrai que c'était sympa, quoi.
Mais c'est quoi le plus dur, tourner avec un chien ou avec François-Xavier de Maison, dont Antoine m'a dit qu'il était très dispersé? Mais je veux pas balancer, hein.
Non, définitivement avec un chien, avec François quand même, j'arrive à le tenir un petit peu, François. Mon pied est fixe.
François-Xavier de Maison, avec qui vous avez tourné hein, dans un film qu'on aime beaucoup ici, comme des frères d'Hugo Gélin. Et on ne résiste pas au plaisir de réécouter cet échange.
C'est bon, je suis prêt. On commence par quoi alors ?
Cher Cassandre, j'espère qu'Ananas va te pousser dans le cul.
Mais non, faut pas être agressif.
C'est pas agressif, un ananas.
Bah, dans une salade de fruits, ça va, mais dans un cul, un ananas, c'est agressif.
Ouais, pas fou.
Si tu veux que ce soit elle qui te regrette,
que ce soit toi le grand seigneur.
Mais ouais, mais t'as raison, je vais écrire en alexandrin.
Attention, Boris, tu pleures sur ma feuille, là.
La place dans mon cœur, jamais inoccupée. Et si je te recroise, je te casse le nez.
François-Xavier de Maison, Pierre Ninet et vous, Nicolas Duvauchel. Alors, deux questions. Un, est-ce que vous aimez les ananas ? Et deux, est-ce qu'on vous revoit bientôt dans une comédie, un genre dans lequel, disons-le, vous excellez aussi ?
Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. J'adore les ananas, pas dans le cul non plus, mais j'adore ça. J'adore ça, oui, j'adore les ananas, oui, c'est vrai. C'est bizarre de le dire, mais oui. Mais oui, et puis j'ai un autre, j'avais tourné aussi dans Jour J avec François.
Absolument.
Et j'ai un autre projet avec lui de comédie. J'ai hâte, j'espère que ça va se faire, et j'ai hâte de le retrouver. Voilà.
Nicolas Duvauchel, vous savez faire plein de choses, la comédie, de la tragédie.
Du jongle.
Mais est-ce que vous savez faire ça? Ah ben oui, il sait
mais
faire.
Moins comme.
Ouais, mais moi j'ai une pratique quotidienne.
Ouais.
Vous savez ce que je veux dire. Ouais. Bon, de toute façon, c'est juste pour lancer les pop news.
Avis aux fans de foot qui aiment les traversées de terrain qui durent au moins 20 minutes, ils reviennent.
Oli et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Oli.
Et devant le regard perplexe d'Antoine Decaune, je me dois d'expliquer. Olive et Tom est un dessin animé qui a sévi à la fin des années 80 sur Feu, La 5 et puis dans le Club Dorothée. Adapté du manga Captain Tsubasa, Olivia Tone rêve de devenir le meilleur footballeur du monde. Thomas Price est un super gardien de but. Bref, une madeleine en forme de crampon pour les trentenaires, limite quarantenaires, qui vont pouvoir partager leur passion ballon rond et animation avec leur progéniture, puisque le reboot de cette série sera diffusé à partir du 1er avril et en VO sur la plateforme ADN.
Attendez !
Danny Boyle à la tête d'une série. Enfin, je veux dire qu'on va le retrouver dans une série, quoi. Avant de peut-être s'attaquer au prochain James Bond, le réalisateur de Trainspotting et Slumdog Millionaire est à la tête de Trust, qui revient sur l'enlèvement tragique de John Paul Getty III à Rome le 10 juillet 73. JPG, troisième du nom, dont le grand-père, magnat du pétrole, était multimilliardaire et assez peu disposé, paradoxalement, à verser les 17 millions réclamés par les ravisseurs. Une histoire de famille, de mafia et de gros sous. Intrigue géniale, casting dément, Donald Sutherland, Brendan Fraser et Hilary Swank, et cette série FX débarque sur Canal+, série le 4 avril.
Qui a osé dire qu'en France on savait pas faire de métal? Bon bah personne, on est d'accord, mais c'était mieux pour mon lancement. Voici Hangman's Chair, groupe originaire de l'Essonne qui vient de sortir son 5e album Banlieue Triste, petit extrait du titre Naïve qui figure sur cet album. Et si je vous parle de Hangman's Chair et de ce titre naïf, en dehors de l'excellence de ce titre, c'est qu'il est accompagné d'un très beau clip qui sera dévoilé mi-avril, un clip dont le héros n'est autre que notre invité Nicolas Duvauchel.
Oui.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est vrai, c'est vous.
Bah oui, alors qui a dit qu'en France on ne savait pas faire de métal?
Mais personne, je vous l'ai dit.
Merci Charline. Nicolas Duvauchel, avant de recevoir l'icône pop Michel Lamy, on écoute la soul mythique d'Eddie Floyd avec le morceau Knock on Wood.
Better
Eddie Floyd, Knock on Wood, c'est un morceau culte de 1966. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Duvauchel, et vient de nous rejoindre Michel Lamy. Bonjour Michel Lamy.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. Alors vous êtes créatrice de mode, vous avez découvert Rick Owens, vous avez eu des clubs hype à Los Angeles, vous êtes le mentor artistique de A$AP Rocky, vous êtes conceptrice de meubles, de bijoux, vous partagez avec Nicolas Duvauchel la passion de la boxe. C'est bien ça ?
Et c'est bien ça. Et Nicolas, je ne savais pas que c'était une passion aussi.
Ah, c'est ça, oui,
la boxe depuis. Oui, j'ai vu que... lightweight. Non.
Ouais, moi, même. Non, si, moins de 69, c'est ça, ouais.
Alors, je le disais en début d'émission, le rappeur Kanye West dit de vous que vous êtes un personnage qui donne l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Est-ce que ça vous résume bien, ça?
J'ai toujours envie de parler que de maintenant, parce que vous me faites un peu peur avec ces 1000 vies. C'est un peu la fin de quelque chose, et peut-être si ça devait l'être, je le sens pas comme ça, tous les jours, je suis très contente de penser que ce que je vais imaginer pour demain.
Mais je pense que ce qu'il entend par là, c'est que vous êtes un caractère d'une grande richesse et complexe.
Oui, oui, Kanye, c'est mon psy.
Michel Lamy, vous êtes une quintessence d'icône pop, et pour une fois je regrette d'être à la radio plutôt qu'à la télévision, tant vous êtes spectaculaire. Vous avez plus de dents en or que Joe Star à la grande époque, plus de tatouages que Nicolas Duvauchel sur vos seules mains. Vous avez quoi, une vingtaine de bracelets, de bagues, vous êtes couverte de bijoux, de tatouages. Vous êtes également le Pygmalion du créateur américain Rick Owens, qui est également votre mari. Pygmalion, c'est plus juste que muse?
Oh, je ne sais pas, je pense pas. Pygmalion fait que je suis l'ancêtre qui a trouvé le jeune My Fair Lady à l'envers. Donc pas du tout. Et heureusement, il comprend pas vraiment le français. Il n'entendra pas et serait furieux. Vous allez faire des drames. Alors, c'est vrai que j'ai rencontré Rick à Los Angeles, c'est que je l'ai même embauché. Mais je pense que... Oui, c'est une façon... Oh, c'est de vivre ensemble, faire des choses ensemble, savoir l'influence. Je pense que c'est lui le designer, le concepteur à ce niveau-là. Et puis... Et puis, oui, ça. Donc, on ne sait pas... Avant, je ne supportais pas le mot muse, qui me paraissait d'être justement à l'envers. Maintenant, je pense que c'est joli.
Oui, c'est une très jolie muse. Moi, ouais. Regardez ma muse.
Oui.
La voici, la voilà.
Non, ça l'était, vous n'avez pas choisi la mieux. Hein. Nicolas, vous avez été, vous aussi, égérie pour de nombreuses marques.
Oui.
Ouais, pour en citer quelques-unes. Bah ouais, Hugo Boss, Levi's, Vuitton, Miu Miu. Vous assistez à certains défilés, l'univers de la mode en général et celui de Rick Owens et Michel Lamy en particulier, ça vous parle?
Ouais, je ne connaissais pas Michel, mais ouais. Oui, j'aime beaucoup la mode, puis je connaissais bien sûr Rick Owens, mais oui, j'aime bien. Et puis j'aime bien les gens atypiques. Donc je suis très content de voir Michel. Ouais. Vraiment, oui. J'aime pas les gens tout plats. Donc voilà, ça, bien. Non, mais c'est vrai. Voilà, faut. Voilà, moi je félicite ces personnes. Voilà, qui sont pas dans le moule social dans lequel on veut nous mettre.
On pourrait faire des t-shirts. Ça, j'aime pas les gens tout plats. Je trouve que ça marcherait bien.
Michel, j'aimerais revenir sur cette rencontre avec Rick Owens. J'ai lu dans une interview le créateur raconter, je le cite, mot pour mot, Pendant les émeutes de Los Angeles, alors que j'étais en train de piller le même magasin d'alcool qu'elle, je l'ai vue au milieu des gaz lacrymogènes en train de remplir un sac en crocodile de bouteilles de brandy tout en fumant un cigare. Le sang est monté dans mes os, j'ai pelé à l'envers, j'ai plané dans l'air, je l'ai rejoint dans la voiture qui l'attendait où elle m'a fisté pour la première fois alors que les incendies faisaient rage autour de nous. Nous avons alors parlé de la vérité cosmique éternelle. Pourquoi un cigare ?
C'est seulement la fumée qui était la même chose que celle d'un cigare. Mais oui, ça c'était quand Red Bull a demandé, puisqu'il m'avait demandé de faire un album, et ils sont demandés justement à Kanye, à Issa, à tout le monde, et à Rick, et là, il a déliré. Mais c'était assez drôle, hein.
Pour moi, c'est...
Ceci dit, c'était vrai que pendant les émeutes de Los Angeles, on était ensemble et qu'il y avait beaucoup de fumée et qu'on était là. Mmh. Et c'était une façon qui ferait un bon scénario, peut-être.
Bah ouais, c'est le début parfait d'une comédie romantique.
Hein. Oui.
Ah, complètement. Moi, j'adore. Moi, je l'avoue, j'ai déjà.
J'adore. Certains Bonnie and Clyde, peut-être.
Ouais. Rick Owens dit également « J'ai toujours su quel était mon destin. J'aime son dédain autant que le poids de son pied sur mon cou. Notre vie est une explosion de paillettes chatoyantes et frissonnantes en slow motion. Je ne sais jamais quand elle va me poignarder, mais un jour, je sais que je lui tirerai une balle dans la tête avant de me flinguer. Et vous, comment le voyez-vous ?
Ah ouais, je m'attendais pas tellement à ça, de savoir comment j'allais réagir à toutes ces misères qu'il va me faire. Mais en fait, on est très très différents. Mmh. Et moi, j'aime faire les choses avec beaucoup de gens. Et Rick, c'est un artiste qui est très en contact avec le monde, mais d'une façon retiré, c'est-à-dire qu'il voit et il connaît tout ce qui se passe. Et moi, ça doit être dans le chaos en rencontrant les gens avec... On est, ceci dit, la boxe, c'est un endroit où il y a des règles et qui règle un peu ce chaos et qui devrait régler ce chaos mondial dans lequel on est. Mmh. Donc c'était un peu ça le...
Justement.
L'histoire de What Are We Fighting For?
Oui, mais justement, à propos de boxe, en janvier dernier, vous avez mixé mode et boxe, donc vos deux passions, avec Lamiland, en réalisant des collections capsules en collaboration avec une vingtaine de designers tels que Coaché, Garrett Pug, Sakai, Rick Owens, évidemment. Comment vous est venue cette idée?
L'idée n'était pas de créer quelque chose par rapport à la mode. Selfridge m'a offert un coin, et le coin le plus populaire, Corner Shop, dans leur magasin, qui venait de refaire et qui était nouveau, pour faire quelque chose, sachant que j'allais faire quelque chose de... Justement, avec beaucoup de monde, quoi, quelque part. Et je leur ai dit la boxe, et tout de suite, ils ont dit « Ah, c'est la boxe, il faut faire ça pendant longtemps, on est bien d'accord avec ça. » Et donc, pour moi, c'était pas justement... créer la boxe et la mode, je veux dire, mais c'était créer un endroit où on se retrouve, où on fasse de la boxe. Et en même temps, les designers ont voulu participer. Mais justement, une mode qui est anti-mode, c'est une paire de shorts. C'est plutôt le corps qui devient la mode à ce moment-là. Et c'est surtout à un moment où la boxe qui était tellement masculine. Et on est à un moment formidable où les femmes font de la boxe, ça devient
de plus en plus féminine.
Et finalement, ce sera plus une question de sexe, ça sera toujours une question de poids, puisque c'est une question de poids, la boxe. Ça qui est bien, c'est pas comment tu es, comment tu es habillé, comment machin, c'est combien tu pèses.
Alors, je précise que cette interview n'est pas en direct du rayon quincaillerie du BHB. En fait, c'est tous vos bracelets. Oui, vous avez nombreux bracelets autour qui font ces bruits étranges.
Oui, mais justement, il me sert d'entraînement, puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas faire de poids.
Oui, il y a combien de kilos autour de vos poignets, là?
Oh, je sais pas. Peut-être 5.
Bon, la boxe, en tous les cas, c'est une passion que vous avez en commun tous les deux, Nicolas et Michel. Pourquoi est-ce que c'est un sport si génial? Racontez-moi ça.
Moi, j'aime bien parce qu'on peut, ça ment pas en fait, quoi. Il y a pas de, au foot, on peut se, voilà, on peut être, on est 11 sur le terrain, donc voilà, on est un peu fatigué aujourd'hui. Bon, bah voilà, il y a d'autres qui font le boulot à notre place, ou voilà, on peut un peu s'en sortir. Mais la boxe, quand voilà, quand on n'est pas en forme et que l'autre il est en forme en face, voilà, ça ment pas. Il y a, voilà, il y a une réalité qui est. Voilà, il y a une réalité, quoi. C'est, bah, on se fait casser la gueule, quoi. Mmh. Ça m'est déjà arrivé, donc.
Comment
donc,
ça?
Voilà, il y a ça. Il y a ça que j'aime bien. Et puis, ouais, ce dépassement de soi-même. Moi, j'aime bien. Et puis, ça fait. Moi, j'aime bien me faire du mal. Pour me faire. Et ça me fait du bien.
Michel, vous aussi, ça fait 30 ans que vous vous intéressez à la boxe, vous?
Oui, j'ai commencé à faire de la boxe au Wild Card Boxing Club. Mmh. À Los Angeles, qui est un endroit mythique. Avec Freddy Roach, l'entraîneur, qui était l'entraîneur de tout le monde, était ce petit Irlandais et qui a Parkinson depuis qu'il a à peu près 27 ans. Et quand il monte dans le ring, il n'a pas Parkinson. Mmh. Il a du mal à parler, il traîne une jambe, il ne peut pas conduire. Il monte dans le ring, il n'a pas Parkinson et il entraîne les plus grands. Et à l'époque, donc, ils ne savaient pas qui j'étais. J'étais la seule touriste là. Tout le monde me regardait un peu. Ça, James Toney, qui était à son grand à l'époque, couvert de diamants. C'était de lui que j'essaie de lui ressembler. qui venait s'entraîner et qui un jour m'a enrappé. Enfin, m'a mis
les bandes.
Les bandes. Et après ça, tout le monde était. Enfin, je suis rentrée un peu dans ce groupe de gens jusqu'à ce qu'ils sachent où j'étais, comment j'étais. Mais c'était intéressant. Et à l'époque, il y avait cette rue. Enfin, elle existe toujours, bien sûr, mais Lucia Riechke. Lucia Riechke, qui était cette femme fantastique, en fait, des Netherlands, mais qui s'entraînait là-bas et qui essayait, après avoir battu toutes les femmes qui n'étaient pas tellement nombreuses là, de pouvoir se battre avec des hommes d'une beauté incroyable. Et elle s'entraînait d'une façon très yoga. Elle pouvait rester une heure sur le ring avec les pieds qui pendaient dans le vide sans bouger tous les muscles. Elle avait une façon et sa tête incroyable. Donc c'était, puis c'est un milieu formidable, la boxe, parce que vous y allez, même s'il y a le journal, toutes les pages sont jetées, dans le sport, toutes les pages sont jetées, c'est tout que la boxe. Et tout le monde vit avec les 3 minutes, avec le ring, là-bas, on s'arrête au bout de 3 minutes, même si on faisait autre chose, si on se mouchait, tout ça, vous s'arrêtez parce que les 3 minutes, le gong a sonné.
Ah mais je vous sens intarissable sur la boxe, je vous sens littéralement intarissable, et je vous
oui,
ai vu...
Oui, il faudrait plus m'arrêter.
Et je vous ai vu vous entraîner.
Mais oui,
nous fréquentons la même salle, absolument, oui.
Et vous y allez souvent?
Oui, j'y vais une fois par semaine. Tous les mercredis matin. C'est pour ça que je suis très en forme aujourd'hui. Bien, on pourrait continuer à parler des heures, mais il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Et avec deux fans de boxe, eh ben, je vais chercher la chanson de Gainsbourg sur la boxe. Allez, j'y vais. Bah, depuis quand c'est un club de boxe ici? Mais, Henri, mon cochon, pourquoi tu fais de la corde à sauter? Henri! Oh, Henri! Pourquoi tu grognes? Pourquoi tu me regardes comme ça, Henri? Hein? Parce que j'ai invité un cuisinier hier. Non, mais attends, je t'ai déjà dit, Thierry Marx, il voulait...
Non, mais attends, je t'ai dit qu'il voulait pas... Écoute-moi, écoute. Non, mais attends, arrête, Henri! Arrête, petit homme! Mais c'est qui t'es mal, ce con, là? Arrête, Henri! Mais c'est quoi ce jeu? Sauvez-moi là-haut! Envoyez la musique!
Ah, plus j'y pense, plus je me dis que dans le fond j'étais verni. Moi j'ai boxé dans le monde entier, ouais quel chouette métier! Quand je frappais, c'était dans le mille. J'ai toujours eu les mains fragiles. J'ai pas pris de coups, tiens pas si lettre. J'ai mal à la tête. J'ai fait 300 combats, et même en Amérique, leur champion tenait pas, j'étais un scientifique. Je descendais dans les palaces, et mes soigneurs avaient leur place. Moi je payais, j'étais vedette, j'ai mal à la tête. Si j'ai gagné plusieurs millions, j'ai pris aussi de l'instruction.
you speak English, à vous de traduire, c'est tout ce que je sais dire. Je plaisais aux filles, et même crois-moi, je me suis marié pendant 3 mois. Ma femme n'aimait que le basket, j'ai mal à la tête. Je fumais des cigares, j'avais même un smoking. Quand j'allais dans un bar, je ne buvais que des drinks. Si j'ai pu le rond, je suis toujours bon. Je les prends tous, leurs grands champions. Je ne suis plus jeune, mais je peux encore faire le palais des sports. Il n'y en a pas un qui resterait droit pendant 2 rounds en face de moi. Je leur ferai voir qui est vedette. J'ai mal à la tête.
Serge Gainsbourg, j'ai mal à la tête, tout comme moi d'ailleurs. Un morceau de 1962 sur France Inter. Michel Lamy, Nicolas Duvauchel, Pop 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 touche à sa fin. Mais nous avons un petit rendez-vous rituel à la fin de cette émission. Je vais vous laisser quelques secondes pour commenter cette affirmation de Jean-Paul Belmondo dans 100 000 dollars au soleil. C'est notre pop ring. Jean-Paul Belmondo dit « Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. » D'accord, pas d'accord?
D'accord.
complètement d'accord aussi. Ouais. Ah oui, il y a un moment, il y a une question de points.
Il n'y a pas à discuter.
Non. On tape et on court plus vite après.
Genre, aucun de vous n'a jamais résisté à une personne de 130 kilos.
Si.
Bien sûr que c'est.
Si. Enfin, faut le dire vite, quoi. Je sais pas.
Merci à tous les deux, c'est sur ce rire de Michel Lamy que nous allons nous quitter. Aujourd'hui, un grand merci Michel Lamy, l'expo Pop-Up Store Lemmyland, elle vient de se terminer, hein, l'été Selfridges à Londres. Merci Nicolas Duvauchel, le collier rouge, c'est sorti aujourd'hui sur les écrans et on court tous vous y voir. Demain, dans Pop-Up-Pop, Jack White sera devant notre micro avant d'être en concert le soir même. Au studio 105, je crois, ou 104, enfin, un 100 quelque chose. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos boxe sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Giscard d'Estaing.
Non, c'est avec le protégé, en fait.
C'est Giscard d'Estaing.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Antoine Gomez, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, et Simon Arestat, notre stagiaire.